carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Chaque époque invente Léonard, disait Michel Arras. Dans cette émission, les plus grands spécialistes de la peinture s'expriment sur la Vierge à l'enfant avec Sainte-Anne, qui occupa Léonard de Vinci pendant près de 20 ans et qu'il laissa inachevée à sa mort en 1519. Histoire d'un tableau testament, à l'occasion de l'achèvement de sa restauration scientifique en 2012 et de l'exposition intitulée « La Sainte-Anne », l'ultime chef-d'œuvre de Léonard de Vinci que lui a consacré le Louvre, qu'il abrite de manière permanente depuis 1797. 15 tableaux de Léonard de Vinci sont parvenus jusqu'à nous. On peut imaginer qu'il en a réalisé bien davantage. Alors, quand le Louvre programme la restauration d'un des tableaux de Léonard de Vinci en sa possession, qui siège aux côtés de la Joconde, toute la planète des historiens d'art et des spécialistes de la conservation des œuvres se donne rendez-vous au chevet du tableau pour le redécouvrir. Dans le cadre de cette exposition, qu'on peut aisément qualifier d'événement mondial, les 135 œuvres rassemblées au Louvre entre le 29 mars et le 25 juin 2012 ont permis de saisir l'incroyable et fascinante genèse de cette composition. Parmi ces prêts exceptionnels, notons le très fameux carton de Burlington House de la National Gallery de Londres, exposé judicieusement à côté de la Sainte-Anne, restaurée du Louvre, pour le plus grand plaisir des visiteurs, puisque ce carton, dit de Burlington, de dimension quasi équivalente, est une sorte d'instantané préparatoire du long processus de création du tableau final. Toujours parmi ces prêts extraordinaires, rappelons aussi la présentation de 22 dessins de la collection de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, sans compter des prêts d'œuvre d'autres peintres, autour du thème de la Sainte-Anne Trinitaire, tradition iconographique par excellence de l'Occident chrétien, d'une rare fécondité. Vincent Delieuvin, commissaire de l'exposition, Pierre Curie, directeur du département peinture du Centre de recherche et de restauration des musées de France, et Cynthia Pasquali, la restauratrice professionnelle qui est intervenue sur l'œuvre, sont les trois invités de Canal Académie pour évoquer l'histoire de ce tableau peint sur quatre planches de peuplier qui exerce depuis des siècles une véritable fascination. Pour preuve, cette citation de l'historien d'art Otto Mundler de 1850 qui figure en exergue d'un des chapitres du magnifique catalogue de l'exposition publié par les éditions du Louvre dont vous trouverez les références sur l'article qui accompagne notre émission sur notre site internet www.canalacademie.com. Je cite Otto Mundler. « Je n'admettrai jamais qu'un autre que Léonard ait pu peindre ce chef-d'œuvre, une des perles du musée et un des prodiges de l'art. Il nous reste seulement à désirer de voir disparaître les taches dont la restauration a parsemé la surface de ce tableau et principalement la draperie bleue de la Vierge. » Vincent Delieuvin est conservateur au département des peintures du musée du Louvre, en charge de l'art italien du XVIe siècle. En 2009, il a été le commissaire de l'exposition Titien-Tintoret-Véronèse, Rivalité à Venise, qui avait été présentée au Louvre. Et il est, je le répète, le commissaire de l'exposition consacrée à la Sainte-Anne de Léonard de Vinci. Et il nous prépare une rétrospective sur les dernières années de Raphaël, cette fois en partenariat avec le Musée du Prado, et c'est prévu au Louvre en octobre 2012. Vincent Delieuvin, merci d'être notre invité pour ce passionnant sujet. Et peut-être que pour commencer, pourriez-vous nous présenter ce thème iconographique qu'est la Sainte-Anne, qui, rappelons-le, dans la religion chrétienne, est la mère de la Vierge Marie et la grand-mère du Christ.
C'est un thème qui, à l'époque de Léonard de Vinci, est en réalité très en vogue. Un thème qu'on pourrait dire vraiment à la mode. Dans la première salle de l'exposition, d'ailleurs, nous avons réuni un grand nombre d'œuvres qui datent de l'époque de Léonard de Vinci et qui représentent cette curieuse, étrange réunion de la grand-mère de Jésus, sa mère et lui-même, Jésus-Christ. Une réunion qui n'est pas historique puisque Sainte Anne est morte avant la naissance de son petit-fils. Une réunion qui est en fait symbolique et qui est pour là est représentée pour évoquer l'ascendance de Jésus, la famille de Jésus du côté de sa mère. Il y a l'arbre de Jessé, qui est très connu, qui est une autre représentation qui lui étudie le côté masculin, En revanche, cette iconographie est là pour vraiment révéler la sainteté de la famille du Christ du côté de sa mère. Et on a donc cette réunion qui, au départ symbolique, volontairement symbolique, qui là, d'une certaine façon, dans ce groupe trinitaire, révèle la sainteté de ce groupe par une forme d'analogie avec la Trinité céleste, Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et donc, dans cette réunion, triple personnage, est révélée cette sainteté qui ressemble à la Trinité céleste. Il existe d'ailleurs plusieurs décors où on joue, à l'époque de Léonard de Vinci, sur ces affinités où on montre côte à côte une Trinité céleste et cette Trinité terrestre, qu'est le groupe de Sainte-Anne trinitaire.
Quelle place occupe ce tableau, la Vierge à l'enfant avec Sainte-Anne, au sein du Louvre depuis son arrivée? Vous allez nous dire ça en 1797.
L'arrivée de la Sainte-Anne dans les collections du Louvre est un peu problématique en réalité. Et vous avez judicieusement choisi cette citation de Otto Mundler, qui est une citation en fait très courageuse de la part de cet historien, qui va à l'encontre du père de l'histoire de l'art, pour tous les amateurs, qui est toujours le père pour nous de l'histoire de l'art, Giorgio Vasari, qui en 1550 a écrit une vaste histoire de l'art, la vie des plus célèbres peintres, sculpteurs et architectes, texte dans lequel Vasari affirme que Léonard n'a jamais peint de Sainte-Anne. Il n'aurait fait que des cartons préparatoires, de grands dessins, esquissés donc, mais jamais de version peinte. Et lorsque le grand public découvre cette œuvre, certes provenant des collections royales, sur les sumesses du Louvre, évidemment, on relit Vasari et on se dit que ça doit être forcément une copie d'atelier, une copie ancienne, comme il en existe d'ailleurs beaucoup dans l'exposition, les copies les plus anciennes sont réunies, et on pensait que c'était un peu l'égal de ces œuvres. Donc une version d'atelier parmi d'autres, qui n'est pas du tout de la main de Léonard, seul le concept, l'idée est de la main de Léonard, mais le tableau en lui-même n'est pas de la main de Léonard. Et c'est un peu cette arrivée un peu étrange, le chef-d'œuvre, eh bien c'est la Vierge Rocher, la Joconde, mais la Sainte-Anne est un peu mise en retrait parce que son état matériel, le vieillissement des vernis, les restaurations altérées rendent difficile sa lecture, et c'est d'autant plus difficile que Vasari est là pour nous dire qu'il n'y a jamais eu de Sainte-Anne.
La grande référence.
Tout à fait.
Alors elle a été quand même placée dans le salon carré, quand même.
Alors justement, Otto Mundler, c'est au milieu du 19e siècle, à un moment absolument une étape très importante dans cette volonté un peu de remettre en avant, de remettre sur scène cette Sainte-Anne. Au même moment, on décide de constituer une salle des chefs-d'œuvre dans le parcours du musée et c'est dans le salon carré qu'on réunira les plus belles œuvres des meilleurs artistes. Alors la sélection est terrible et pour Léonard de Vinci, qui a bien sûr droit au salon carré, on ne choisit que deux œuvres malgré la très grande richesse de nos collections, la plus belle collection au monde. Et on ne choisit que le principal chef-d'œuvre, un peu celui qu'on voyait comme une œuvre absolument importante, la Joconde, et le second tableau, c'est la Sainte-Anne. Donc c'est vraiment un moment très important, l'image que l'on a de ce tableau. Et après, ça sera une lente reconquête du statut de cette œuvre qui s'achève un peu aujourd'hui grâce à la restauration qui en a révélé toute la splendeur et la totale autographie. Je rappelle que certains historiens, encore aujourd'hui, enfin dans les années passées, ont encore émis certains doutes qui sont nés du texte, de la lecture du texte de Giorgio Vasari. Mais la restauration est là pour lever un peu ces doutes.
Alors le tableau, vous venez de le dire, au cours de son histoire a fait couler beaucoup d'encre, a donné lieu à des interprétations qui s'avèrent fausses aujourd'hui. Qu'ont apporté alors les dernières découvertes depuis 1990? Qu'est-ce qu'on a appris avec cette récente campagne de restauration scientifique, là, entreprise en 2010 et qui a duré 2 ans?
Oh, les gains sont considérables. La restauration de cette œuvre a révélé d'abord l'extraordinaire état de ce tableau, alors qu'on pensait anciennement peut-être détruit, très altéré, dans un très mauvais état et donc étant une sorte de fantôme par rapport à ce que Léonard avait peint. Donc là, on découvre enfin la matière, la façon dont Léonard peint dans ces dernières années. Vous savez que nous n'avons que 3 tableaux des années tardives de Léonard de Vinci, la Joconde, le Saint-Jean-Baptiste et la Sainte-Anne. Et la Sainte-Anne est la seule œuvre restaurée. C'est donc une occasion, une opportunité unique de comprendre la technique picturale de Léonard de Vinci dans ses 20 dernières années, c'est-à-dire les années où il arrive au sommet de sa maîtrise des moyens picturaux. Donc c'est une découverte absolument considérable et une redécouverte de la matière, de la technique de Léonard extraordinaire.
Alors, avant de toucher au tableau, il y a toute une batterie d'examens, de recherches scientifiques très précises qui sont effectuées pour préparer au mieux cette phase d'intervention directe sur le tableau. Qu'est-ce qu'on a appris sur ce qu'on peut qualifier du dossier Sainte-Anne? Il y avait des idées fausses, on pensait qu'il avait appartenu à Richelieu. Qu'est-ce qui est définitivement écarté grâce à l'exposition et à cette restauration?
Alors là, ce n'est pas la restauration en soi qui a permis de révéler beaucoup de choses sur l'histoire. La restauration et surtout l'étude au laboratoire ont permis de comprendre les changements que Léonard avait apportés à sa composition pendant une exécution qui a probablement duré environ 15 ans. donc un temps considérable au cours duquel Léonard n'a cessé de méditer, de perfectionner chaque détail de sa composition. Enfin, en revanche, historiquement, on a accompagné le travail de restauration
voilà,
par une volonté de rassembler toutes les sources. Hein, et dans l'exposition, on a rendu présent tous les documents d'archives anciens, des contemporains, tous ceux du XVIe siècle, en tout cas du siècle de Léonard. Et effectivement, ça a permis, ça a été l'occasion eh bien, de remettre en cause certaines hypothèses. La première hypothèse, ça, c'est par exemple, effectivement, celle de l'histoire de notre tableau, une acquisition par Richelieu lors d'un siège en Italie, au siège de Casale Monferrato. Peu à peu, ça c'est un travail lent des historiens, d'abord prise de conscience que Richelieu n'était jamais allé au siège de Casale Monferrato, contrairement à ce qu'on avait dit au milieu du XIXe siècle, et puis après, découverte hein, par un grand historien, Bertrand Gestase, qui, lors de ses visites aux archives nationales, a pu remettre au jour un document très important, vraiment l'acte de vente des tableaux de Léonard, qui ont été en fait achetés à l'élève de Léonard, Salaï, dès 1518, donc quelques mois avant la mort de Léonard de Vinci. Donc ce long travail, je dirais, autour du tableau a été l'occasion de clarifier toute la vie de ce tableau au cours des 500 ans qui nous séparent de sa création.
Qu'a-t-on appris alors de sa démarche artistique ?
Alors, ce qui a été vraiment fascinant, c'est de pouvoir, grâce aux examens de laboratoire, réflectographie infrarouge, radiographie, mais grâce aussi au travail de rassemblement des dessins préparatoires, cartons préparatoires de Léonard, mais aussi toutes les copies anciennes qui ont été faites dans son atelier, terminées avant que lui achève sa propre version, donc des œuvres qui nous montrent des états intermédiaires de sa pensée, et bien grâce au rassemblement de toutes ces informations, on a pu enfin comprendre comment Léonard fonctionne d'une certaine façon, sa quête d'abord de la composition la plus adéquate pour raconter l'histoire qu'il souhaite mettre en scène, donc cette annonce de la mort, Jésus annonce sa propre mort, la réaction de sa mère, de sa grand-mère, ce jeu théâtral est vraiment mis en scène par Léonard de Vinci, et à travers, au cours de ces 20 années de méditation, Léonard ne va cesser de perfectionner cette scène de théâtre, cette scène de théâtre sacré, jusqu'à trouver le moment le plus émouvant de cette histoire, celui où la Vierge décide non plus de retenir son fils, hein, mais vraiment de l'accompagner vers son destin tragique mais nécessaire. Et ça, ça a été vraiment en rassemblant tous ces documents qu'on a pu comprendre eh bien, les changements que Léonard a peu à peu apportés à son histoire. Supprimer par exemple les gestes de Sainte-Anne, peu à peu, ça s'est fait vraiment par étapes, et à la fin lui donner un rôle uniquement contemplatif, rendre la gestuelle de la Vierge beaucoup plus ambiguë, entre un geste de retenue et d'accompagnement envers l'agneau, voilà, on ne sait pas, et finalement mourir en poursuivant, en tentant de rendre à l'expression de la Vierge eh bien, ce mélange extraordinaire entre une subtile mélancolie et la naissance d'un sourire. Vraiment nous faire participer à ce moment où Vierge Marie, mère de Jésus, devient véritablement mère de Dieu, comprend le destin de son fils et l'accompagne dans cette démarche très difficile.
Vous arrêtez là sur l'expression du visage de la Vierge Marie et on a justement un dessin, même plusieurs, dans l'exposition qui montrent cette évolution et dont un dessin absolument extraordinaire, très suave sur cette expression justement qui n'est pas ni hiératique, ni... Là on est dans la subtilité de Léonard de Vinci.
Tout à fait, c'était ce qu'il cherchait à apporter à la peinture, trouver une technique picturale qui lui permettrait par justement tenter de rendre les passages de l'ombre à la lumière les plus imperceptibles. Ça, c'est une façon de rendre une subtilité inouïe aux expressions, leur donner du mouvement en fait, et du coup donner de la subtilité, de l'ambiguïté à l'expression. Parvenir à introduire une forme de temporalité dans la peinture qui a tendance à figer les choses. Grâce à cette technique de peinture, ces effets de sfumato qui sont recherchés, Léonard parvient à nous faire vivre ce moment, à nous faire vivre les secondes où le sourire commence à envahir l'expression du visage, à dominer la mélancolie.
Alors, il apporte, on voit, une nouvelle manière de traiter le sujet de la Sainte-Anne trinitaire par cette composition pyramidale, vous avez parlé du geste, de l'expression. Comment c'était perçu de son vivant, ses nouveautés aussi ? Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau, en fait ? En dehors de son art de peindre sur lequel j'aimerais qu'on revienne et peut-être vous nous donnerez votre définition de l'art de peindre de Léonard, mais qu'est-ce qu'il a apporté exactement en plus ?
Justement, ce qui a beaucoup fasciné les contemporains, c'est la capacité de Léonard à donner vie aux expressions d'une façon qui n'avait jamais été obtenue à ce niveau, cette subtilité des expressions à travers une des expressions les plus ambiguës de l'être humain, le sourire. Hein. Sourire qui caractérise toutes les dernières œuvres de Léonard de Vinci, la Joconde, le Saint-Jean-Baptiste et bien sûr notre Sainte-Anne. Une variation, ce sont trois sourires différents qui chacun exprime une idée différente. Donc ça, c'est un apport essentiel pour ne pas parler de cette représentation du monde, le paysage de la Sainte-Anne, qui est lié à une étude scientifique du monde. Chaque parcelle de ce tableau a été véritablement étudiée. Léonard a eu besoin de comprendre le fonctionnement de l'eau, la constitution des montagnes, la formation des rochers.
Puisqu'en arrière-plan, il y a ce paysage léonardesque.
Sol, il y a ce paysage, tout à fait, mais même le sol, elles ont les pieds assis sur cette stratification de rochers, sur ces galets, sur peut-être ces fossiles qui sont là. Léonard était passionné par cette histoire du monde, essayer de la comprendre. Il était passionné aussi par cette lutte des éléments entre l'eau qui a déplacé les rochers, qui a façonné les galets. Donc toute cette compréhension du monde et ce rendu à la fois très poétique du monde, parce que la transcription n'est pas une froide transcription scientifique, mais elle est extrêmement poétique, tout ça a fasciné ses contemporains. Mais bien évidemment, les contemporains ont été aussi très marqués par le génie de Léonard à raconter aussi une histoire, ce génie de la narration, grâce à un schéma qui à la fois a un côté, c'est vrai, vous l'avez dit, un peu géométrique, mais ce n'est pas là encore de la pure géométrie, il y a cette pyramide un peu qui domine les formes, mais il y a aussi énormément de subtilité. Cette capacité à révéler quelque chose qui est à la fois symbolique, l'histoire du Christ, son origine d'une certaine façon, avec Sainte-Anne qui est tout en haut, la Vierge qui est entre les deux, puis l'enfant Jésus, et cette superposition, cette succession des corps, il y a vraiment un mouvement qui est le mouvement de l'histoire. D'une certaine façon, à la fois la succession se fait sur un rythme vertical, mais en même temps elle se fait dans la profondeur de la construction
avec les drapés,
tableaux. Avec les drapés, le positionnement des figures et évidemment les bras, avec cette idée extraordinaire du bras droit de la Vierge qui est dans la continuité de l'épaule de Sainte-Anne. Donc on lit de façon à la fois, c'est à la fois très naturel, mais en même temps extrêmement savant. On lit à la fois une scène qui, en apparence, peut nous paraître anecdotique, une scène de la vie de l'enfance du Christ, mais qui révèle en même temps une étude tout à fait symbolique de cette histoire du Christ et qui est en même temps Sainte-Anne appartenant un peu à l'Ancien Testament et vraiment le sens de l'arrivée du Christ sur Terre, l'incarnation, ce passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament à travers Sainte-Anne qui est en retrait au fond et le Christ qui pose un pied sur
Terre. Est-ce qu'on a des témoignages de l'époque ?
Malheureusement, on en a très peu. Sur la Sainte-Anne elle-même, on en a malheureusement très peu par rapport à notre appétit d'information actuelle. Mais pour Léonard et pour cette époque, c'est déjà considérable. Dans l'exposition, on a la chance de montrer tous les documents des contemporains qui évoquent cette œuvre. Et entre autres, le premier document, une lettre très émouvante d'un carme qui a eu la chance d'observer Léonard en cours de travail dans son atelier en 1501 et qui nous livre d'ailleurs une lecture iconographique très émouvante du tableau avec des comparaisons qui montrent toute la profondeur aussi de la démarche, du sens de cette œuvre, qui compare par exemple la figure de Sainte-Anne à la figure de l'Église, la représentation symbolique de l'Église, un moment où en 1501, Léonard concevait Sainte-Anne encore comme ayant un rôle très actif dans l'histoire et retenant vraiment très fortement sa fille, l'empêchant de reprendre son fils entre ses bras.
On lit l'histoire aussi de son époque, des rapports de l'Église avec la société dans ce tableau.
Oui, alors ce tableau est très en lien.
Est-ce qu'il y a une interprétation, j'allais dire, de l'époque de Léonard dans ce tableau ?
Ben, on est en plein dans les débats à cette époque qui sont posés par la thèse de l'Immaculée Conception.
Voilà, c'est certain.
Ah oui, tout à fait. Mmh. On est dans une époque qui débat énormément de ces problèmes.
Est-ce qu'on peut dire qu'il s'engageait ? Ou pas.
C'est difficile de dire s'il s'engageait.
Ça, ce sont des problématiques d'aujourd'hui.
Tout à fait. Et les conditions de la commande de la Sainte-Anne sont encore un peu inconnues. Elles peuvent être aussi tout aussi bien, et c'est même peut-être, en tout cas c'est mon hypothèse, plutôt politique. Tous les documents du XVIe siècle indiquent que Léonard a commencé sa Sainte-Anne à Florence au tout début du XVIe siècle, à un moment où Sainte-Anne est une figure avant tout politique, vraiment la protectrice du régime républicain qui est mise en péril par les gouvernements, enfin les autres pouvoirs en Italie, et donc... La République de Florence se place sous la protection de Sainte-Anne. Il y a une dévotion considérable envers la Sainte dans ces années-là, pour des raisons, là encore, historiques, qui sont liées à des événements du Moyen-Âge. Donc, il est possible que cette Sainte-Anne ait avant tout, plus qu'un, au départ, un sens théologique, en tout cas, un sens politique. Mais après, c'est là toute la richesse et la polysémie de ses œuvres. On aimait, justement, avoir des œuvres avec cette richesse de lecture, et on peut y apporter toutes ces visions sur ce tableau.
Comment vous définiriez l'art de peindre de Léonard de Vinci ?
C'est une question très belle. On aurait envie de parler de chaque détail du tableau. Mais ce qui aurait plu peut-être le plus à Léonard de Vinci, c'est là encore cette capacité à donner de la vie, à révéler la vie dans toute sa subtilité, dans tout ce qu'elle a de plus merveilleux, dans toute son ambiguïté, dans toute sa richesse. Les expressions humaines, bien évidemment, et lorsqu'on voit la Sainte-Anne, on est en plein dedans. Cette capacité de l'art de Léonard de Vinci à rendre toute la subtilité à cette expression humaine. Et dans le paysage, c'est un peu la même chose. Rendre compte de l'histoire du monde et à la fois une façon extrêmement vivante à travers cette lutte des éléments que l'on voit, cette eau qui tourne autour d'un cirque rocheux. Cette
l'eau qu'il a étudiée par ailleurs Dans ses carnets.
Dans ses carnets, d'ailleurs, on en montre dans l'exposition. On le voit être passionné par les mouvements de l'eau, essayer de comprendre le fonctionnement du mouvement de l'eau, les cascades, les courants marins. Il était effectivement passionné par ça. Donc, c'est cette capacité. Un peintre qui, à la fois, tente de révéler au mieux cette vie dans toute sa complexité et en même temps une peinture, un art qui tente de donner à la peinture ses propres moyens d'invention, d'écriture. Parce que c'est aussi un des problèmes que pose la Sainte-Anne, l'inachèvement. Des expérimentations qui sont vraiment des expérimentations artistiques où on voit l'artiste tenter de donner à cet art des moyens propres. Donc d'une certaine façon des moyens propres qui distinguent de la stricte imitation de la nature. On n'est pas dans l'illustration d'un traité théorique, mais plutôt dans la volonté. C'est pour ça qu'il a passé 15 ans à peindre ce tableau, à tenter de rendre l'image la plus parfaite, parce que la peinture, ce n'est pas une stricte imitation de la nature. Le peintre, tel Dieu, invente une autre nature, un autre monde, un monde à l'image du monde réel, mais en même temps avec ses propres moyens.
Est-ce que vous qualifieriez ce tableau d'œuvre testamentaire de Léonard de Vinci, dans la mesure où il concentre à la fois toutes ses connaissances, justement, en art, dans les sciences? Est-ce qu'on sait la place qu'occupe ce tableau, j'allais dire, pour le Léonard intime, derrière le traitement original qu'il a fait de ce thème en vogue? Est-ce qu'il y a laissé quelque chose, un petit plus, quoi?
Léonard est parti avec tous ses secrets, il ne parle jamais de ses tableaux. Ça peut nous paraître frustrant, ça l'est. Néanmoins, il est très certain que ce tableau avait une place toute particulière pour Léonard. Alors, sans doute autant peut-être que la Joconde et le Saint-Jean-Baptiste qui l'ont également accompagné pendant de nombreuses années. Mais la Sainte-Anne est l'œuvre la plus ambitieuse. Et pour quelqu'un du XVIe siècle, il en était conscient. La peinture d'histoire est quelque chose de supérieur au portrait, par exemple, pour parler de la Joconde. C'est une œuvre dans laquelle on reporte plus de choses. L'artiste fait démonstration de tout son savoir, de tout son talent, dans sa capacité à raconter une histoire et dans sa capacité à représenter le monde dans toute son entièreté, d'une certaine façon. Par rapport à la Joconde, la Sainte-Anne est beaucoup plus complexe et complète.
Pourquoi l'œuvre semble éternelle et source d'inspiration pour des générations de peintres, malgré les siècles qui nous en séparent?
Alors là, vous me demandez d'entrer dans l'esprit de millions de
personnes.
Mais
oui, mais l'ambition de l'exposition, c'était aussi de montrer la fécondité de cette œuvre.
Bien sûr, d'ouvrir d'ailleurs les choses. On termine par cette petite salle, mais qui, j'espère, en tout cas, j'essaie d'être le plus évocateur possible, pour montrer cette fascination des générations, en tout cas depuis que le tableau est rentré au musée du Louvre à la fin du XVIIIe siècle, pour cette œuvre qui, en fait, a bouleversé les artistes du XIXe siècle et du XXe siècle par leur compréhension de la place. Bien sûr, il y a une compréhension de la place de Léonard dans la construction de l'histoire de l'art, mais pour la force de l'œuvre en elle-même, ça c'est évident. Je crois que ce qui a beaucoup fasciné, c'est cette capacité de Léonard, à partir d'un schéma qui est en réalité extrêmement complexe et complètement antinaturel. C'est un regroupement très étrange de trois personnages, imbriqués dans les autres. Voilà, ces deux femmes assises l'une sur l'autre. Quelque chose de très étrange qui dérange même le bon goût du XIXe siècle. Voilà, le rajeunissement. Toute cette image, il y a un côté très étrange, très mystérieux. Alors, pour des gens du XVIe siècle, c'était tout à fait normal d'avoir ce regroupement. Pour le goût du XIXe siècle, on l'a eu reproché d'ailleurs pendant une partie du XIXe siècle d'avoir inventé quelque chose de très étrange, une femme assise sur l'autre, qui paraissent deux sœurs plutôt qu'une grand-mère avec sa fille. Donc toute cette image a un côté à la fois très mystérieux qui a bouleversé un peu, beaucoup marqué la succession des artistes tout au long des XIXe et XXe siècles. Aussi, quelque chose je crois, c'est cette extraordinaire qualité de la peinture que l'on pouvait deviner encore avant déjà sous les vernis. On sentait des bribes de génie. Tout ça réapparaît aujourd'hui d'une façon extraordinaire grâce à la restauration. Et je crois que c'est quelque chose qui est là et très fort, c'est cette extraordinaire qualité de peintre de Léonard de Vinci, qualité d'inventeur, de subtilité de l'expression et extraordinaire peinture. Tout ça est mélangé de façon très naturelle dans un tableau et ça en fait une œuvre bouleversante en fait, profondément bouleversante.
Pour terminer, Vincent de Liévin, dans quel détail de ce tableau restauré aimez-vous vous perdre ?
C'est une réponse assez facile, c'est vraiment le paysage. J'ai eu la chance d'assister à ces moments vraiment magiques où Cinzia Pasquali a peu à peu allégé les vernis sur le paysage et où on se perdait littéralement dans les profondeurs de ce paysage, où on voyait toutes ces nuances de bleu, de blanc, de gris, commence à construire vraiment ce relief, à se perdre, un relief qui finit par se perdre dans la couleur délicate du ciel. Je crois que c'est vraiment un des endroits du tableau, une zone les plus bouleversantes, les plus mystérieuses, les plus magiques de cette œuvre. Et on a envie véritablement que l'esprit aille se perdre dans ce paysage finissant, dans ces bleutés magiques.
Merci beaucoup, Vincent Dolivin, d'être venu nous présenter cette œuvre majeure de notre patrimoine à tous.
C'était avec grand plaisir et je vous remercie de m'avoir invité.
Retrouvons le conservateur Pierre Curie, qui est directeur du département de restauration des peintures du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Pierre Curie, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes aujourd'hui à l'Institut national d'histoire de l'art, le 20 juin, où est réunie la fine fleur des restaurateurs professionnels de l'œuvre de Léonard de Vinci. Quel est le but de cette journée d'études dans l'actualité particulière de l'année 2012 autour de Léonard de Vinci ?
Alors, l'idée de cette journée est venue du fait que nous souhaitions souligner le regard du restaurateur sur l'œuvre d'art. La science, les laboratoires se sont beaucoup exprimés dans les mois passés, notamment à Londres lors d'une journée Charisma, et évidemment les laboratoires apportent énormément dans la connaissance de l'œuvre, et dans la connaissance des matériaux, de leur mise en œuvre, etc. Mais nous souhaitions donner une plus grande part aux restaurateurs qui sont intervenus parfois sur des durées très longues, comme Pininfarina, par exemple, qui a travaillé pendant 20 ans sur la Seine à Milan, donner la parole aux restaurateurs qui ont une connaissance encore plus intime du fait matériel de l'œuvre et par là même de l'acte artistique, de l'art d'un artiste. Quand on passe évidemment 12 mois, 14 mois, le nez, les yeux, les mains en contact permanent à quelques centimètres d'une œuvre, voire en contact avec l'œuvre, eh bien évidemment, on finit par avoir une intimité avec son créateur, une compréhension qui est différente de celle du laboratoire, qui la complète en fait, hein, qui apporte un autre regard, un autre angle. Et je crois que c'était ça que nous voulions, en quelque sorte, mettre en valeur dans l'organisation de cette journée.
Restaurer des monuments de l'art, ça réclame des précautions particulières, ça obéit à des règles particulières. Et ce sont des opérations de très grande envergure, prises en charge par le Centre de recherche et de restauration des musées de France, où vous travaillez, dont vous dirigez le département de peinture. Est-ce que vous pouvez nous présenter, j'allais dire, cet atelier, ces ateliers, ces laboratoires, le centre et ses missions ?
Alors, l'activité du centre se partage en quatre grands départements qui sont tout à fait complémentaires. Il y a un département recherche, dont l'activité est évidemment fondamentale en ce qui nous regarde pour préparer les restaurations, puisque ce département va fournir, produire une iconographie, une imagerie scientifique préalable à toute intervention, ultraviolet, rayon X, infrarouge, etc. Il va également accompagner les restaurateurs dans leur travail par des analyses complémentaires, stratigraphie, etc. Et pour la Sainte-Anne, nous avons même bénéficié d'une technologie tout à fait nouvelle qui permet la mesure d'épaisseur des vernis. C'est quelque chose qui est assez expérimental pour l'instant et qui nous a beaucoup aidé en fait dans notre travail très progressif de nettoyage du tableau. Donc ça, c'est le département recherche. Nous avons bien sûr le département restauration qui met en œuvre le travail lui-même. Donc tant sur le plan, je dirais, du local, nous mettons des ateliers à disposition des restaurateurs, mais aussi d'un encadrement scientifique et d'un suivi qui est proposé aux restaurateurs, bien sûr, et qui va faire l'interface, en quelque sorte, entre la conservation des musées, parce que nous travaillons pour le Louvre, mais aussi de très nombreux musées de France, et donc qui va créer ce rapport entre le conservateur, qui est souvent un historien de l'art, et le restaurateur, qui est souvent beaucoup plus connaisseur de techniques et de matériaux. Donc notre mission est d'articuler ce travail. Les deux autres départements sont tout aussi important, même plus discret, mais tout aussi important, c'est un département de documentation, parce que la restauration, il est très important de la documenter pour l'avenir, mais également, bien sûr, quand on travaille sur un tableau comme la Sainte-Anne, on repart dans les archives pour savoir ce qui a pu lui arriver, et en l'occurrence, les archives remontent sur ce tableau à la fin du XVIIIe siècle, donc on peut quand même avoir des données matérielles très importantes.
Lors de son entrée au Louvre.
Voilà, elle était dans les collections royales depuis longtemps, mais bon, on a les premières traces d'activité ou d'intervention sur le tableau à la fin du XVIIIe siècle. Et le quatrième département, c'est un département de conservation préventive qui accompagne en fait les musées dans les mesures qu'ils prennent pour préserver les œuvres de la meilleure façon, soit dans leur salle, soit dans leur réserve. Voilà un peu l'activité du centre et comment se situe l'activité du département de restauration au sein de cet ensemble.
Alors par exemple, sur la Sainte-Anne de Léonard, combien de personnes en fait ont contribué à cette campagne scientifique d'envergure et de restauration ?
Je ne saurais vous dire un chiffre exact parce que j'aurais peur de me tromper, mais entre 10 et 20. C'est-à-dire il y a déjà eu toutes les campagnes scientifiques, d'études et d'investigations scientifiques par l'imagerie. Ces campagnes ont commencé dans les années 2000. Il y a un premier résultat en 2005 avec la publication d'un long article. Puis les méthodes d'investigation infrarouge se sont perfectionnées. On a fait de nouvelles réflectographies infrarouges. On a découvert des dessins au revers. Tout ça a pris plusieurs années et a impliqué, je dirais, oui, une dizaine de personnes dans le service. Et puis ensuite, dans le département, une fois que le tableau, que la décision a été prise de la restauration, bien sûr, c'est le département restauration qui a pris le relais, avec là de nouveau un certain nombre de personnes, et surtout la constitution d'une commission scientifique internationale.
Alors ça, c'est très important, puisque effectivement, on imagine que la décision d'intervenir sur un tel tableau nécessite une décision collégiale. On n'imagine pas une seule personne prendre cette décision. Comment se passe justement cette responsabilité collective ? Comment est-elle gérée ?
Alors, en fait, la décision appartient tout entière au responsable juridique de l'œuvre, en l'occurrence le directeur du département des peintures. Il a souhaité la constitution de cette commission scientifique pour l'aider en fait à prendre ses décisions. C'est Vincent Pomarel. Vincent Pomarel, le directeur du département des peintures, a souhaité la constitution d'une telle commission pour l'aider à prendre ses décisions. Mais en dernier ressort, c'est lui qui décide. Par exemple, sur le niveau de nettoyage, et les membres de la commission ont, in tutu personae, donné leur propre avis, chacun individuellement, sur leur accord ou leur désaccord avec tel ou tel aspect de la restauration. Donc, c'était une commission consultative. Et force est de constater que Vincent Pomarède a suivi, d'une manière générale, l'avis dominant, l'avis très autorisé de ses spécialistes venus de toute l'Europe, puisque nous avions 3 spécialistes italiens, 2 spécialistes anglais, de nombreux Français, conservateurs ou restaurateurs. La commission était assez équilibrée, en fait, dans ses composantes.
Tous avaient intervenu sur une œuvre de Léonard.
Tous étaient impliqués à un titre ou à un autre avec Léonard. Oui, bien sûr, c'est le cas de Larry Kate, par exemple, de la National Gallery. C'était le cas de Pininbrambi, là, qui avait restauré la scène. C'était le cas de nos amis florentins qui sont en train de travailler sur l'adoration des mages. Tous ces intervenants, nous allons les retrouver aujourd'hui.
Ils vont
parler de leur propre expérience, qui est forcément différente de la nôtre et complémentaire, puisque les tableaux sont tous différents. Donc, voilà.
Alors, au niveau de l'imagerie, vous disposez, dans ce centre de recherche et de restauration des musées de France, de moyens technologiques, techniques exceptionnels.
Oui, enfin exceptionnels, en tout cas au niveau des plus grands laboratoires
Des microscopes, des accélérateurs de particules, j'ai lu ça, donc je suis très étonnée qu'on soit aussi pointu. On connaissait l'imagerie des tableaux, mais là, on franchit de plus en plus d'étapes.
Alors, pour l'instant, nous n'utilisons pas d'accélérateur de particules dans le domaine de la connaissance de la peinture. C'est un Aglaé, puisque
voilà,
c'est son petit nom. Aglaé
est
surtout utile dans la connaissance des matériaux, notamment des métaux, de la céramique. Disons qu'il est assez utilisé pour l'archéologie, notamment. Mais les moyens d'investigation scientifique progresse. Je vous ai parlé de ces nouvelles techniques de mesure des vernis qui ont été mises en œuvre donc tout à fait récemment et je crois que c'est quelque chose qui est très observé à l'étranger parce que pour la première fois on a pu fournir des données chiffrées quantitatives sur un amincissement de vernis, dire voilà, il reste tant de microns, on en a enlevé tant, mesurer aussi l'irrégularité d'une surface couverte par des vernis. Donc je crois que c'est une technologie qui est appelée à se développer. On a un peu essuyé les plâtres avec cette technique, mais je la crois très très porteuse d'avenir, justement dans toutes ces questions de nettoyage un peu compliquées.
Donc là, un véritable savoir-faire se met en place grâce à cette technologie. Et Dieu sait que ça a beaucoup d'importance dans la restauration des tableaux de Léonard de Vinci, qui justement ont subi plusieurs couches de vernis. Et j'imagine que ces questions sont primordiales pour l'intervention du restaurateur après sur la toile.
Absolument, puisque ça a commencé d'ailleurs par de simples mesures il y a quelques années. Et sur un tableau comme le Saint-Jean-Baptiste du musée du Louvre aussi, nous savons qu'il y a environ 100 microns de vernis de restauration. Quand il faut savoir aussi qu'une couche de vernis neuf que vous posez fait à peu près 4 microns. Donc ça vous donne le rapport, en fait, qui vous explique un peu cette espèce d'émail que le tableau porte sur lui, mais qui n'a rien d'original, évidemment, qui est constitué de ces strates, de palimpsestes, de couches de vernis et de repeints. Parce que il faut bien imaginer qu'entre les couches de vernis et les passages différents de vernis au cours des siècles, on a également posé beaucoup de retouches, donc ça fausse complètement le tableau et sa lecture est très 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 difficile, très compliquée d'essayer de l'apprécier aujourd'hui. Sur la Sainte-Anne, on avait une situation extrêmement irrégulière puisque plusieurs restaurations étaient déjà intervenues et avaient, je dirais, brouillé le tableau. Il y avait beaucoup de retouches, beaucoup de vernis véhiculé, aminci de façon irrégulière, d'où le fait que le cahier des charges principal de cette restauration, c'était la régularisation des vernis. Alors la régularisation, ça veut dire par amincissement, hein, c'est-à-dire enlever toutes les bosses et essayer d'arriver à descendre à un niveau assez homogène de façon à ce qu'on ait une image homogène du tableau. Donc la situation était très compliquée, il y avait des zones autour de 40 microns de vernis et d'autres qui avaient déjà été plus amincis, plus allégés, autour de 18, peut-être 12 microns de vernis dans certaines zones, voilà.
Quelle a été, pour terminer, votre émotion de spécialiste de la restauration au cours de cette campagne scientifique autour de la Sainte-Anne de Léonard? Qu'est-ce qui vous a touché le plus sur ces 2 années quand même, voire davantage, puisqu'on a appris aujourd'hui, depuis 1994, il y a eu des tentatives de restauration de ce tableau. Donc, vous, quelle a été votre émotion?
Ce que j'ai vécu était tout à fait unique. Parce que d'abord, je me suis très très bien entendu avec la restauratrice. C'est une condition sine qua non pour réaliser un bon travail, c'est d'avoir un niveau de confiance, de dialogue absolument transparent et de tout se dire d'une certaine façon pour vraiment mener le travail comme il convient. Nous avons été frappés, elle et moi, de voir combien en fait ce tableau ne nous ennuyait jamais. Quand on passe un an aussi devant une image, parfois on finit par se lasser. Or, nous ne sommes jamais lassés de la Sainte-Anne. Presque tous les matins, nous la retrouvions dans son petit coin d'atelier de fleurs.
Des pavillons de
fleurs,
très,
très, voilà, très, très différent. Très difficile de ne pas aller passer 5 ou 10 minutes à la regarder, regarder le progrès du travail. Toujours fasciné par ce questionnement un peu de ce peintre parfait, en même temps qu'il ne termine rien. Il y avait une interrogation permanente, une fascination, c'est évident. C'est pas n'importe quel tableau et on comprend quand même mieux. J'espère, après la restauration, tout cet impact en fait qu'il a pu avoir après sur la Renaissance, à Florence en particulier.
Merci Pierre Curie de nous avoir expliqué un peu tout ce travail qui entoure ces longues campagnes scientifiques de restauration des monuments de l'art.
C'est moi qui vous remercie.
Retrouvons la restauratrice professionnelle Cynthia Pasquali qui est intervenue sur la Sainte-Anne de Léonard de Vinci. Cynthia Pasquali, vous êtes intervenue en tant que restauratrice professionnelle libérale sur la Singerie de Chantilly, à la Galerie des Glaces de Versailles, pour de nombreuses églises en Italie, à Rome, à Naples, y compris au Louvre aussi, dans la Galerie Apollon.
Apollon, oui.
Et vous avez eu à la fois la chance et la grande responsabilité d'intervenir sur la Sainte-Anne de Léonard de Vinci. Vous y avez passé 2 années complètes. J'imagine que ce tableau n'a aucun secret pour vous. Quelle a été votre première réaction quand vous avez su que c'était vous qui aviez été choisi pour intervenir sur ce tableau?
C'est pas exact de dire que ce tableau n'a plus de secret pour moi, parce que je pense que déjà, Léonard, c'est une personnalité qui est secrète, vraiment comme artiste, et aussi que c'est un tableau qui nous a pas tout livré encore. C'est vrai qu'il y a des interrogations que nous avons pas résolues, à laquelle on n'a pas répondu. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand on m'a dit que j'avais été retenue dans l'appel d'offres qui a été fait pour la restauration de ce tableau? D'abord, j'étais très contente. Et très fière qu'on m'a choisi, bien entendu, parce que c'est aussi un honneur de savoir qu'ils sont considérés, que vous avez cette capacité de toucher à une œuvre si importante, mais aussi beaucoup de stress, parce que c'est, comme vous le dites très bien, une responsabilité. Et effectivement, c'est une responsabilité qu'on n'ignore pas et qu'on ressent tout au long de l'intervention.
Concrètement, vous disiez qu'il y a des choses qu'on ignore encore du tableau, que le tableau n'a pas livré. Est-ce que dans ce travail très patient qu'a été le vôtre, peut-être devrais-je vous demander comment se déroulait une journée type de votre travail, même si sur les 2 ans, on imagine qu'il y a eu des phases, des préparations particulières.
Au fait, il n'y a pas de journée type dans la restauration. C'est une intervention qui évolue au fur et à mesure qu'on avance. Il y a plusieurs phases, effectivement. Il y a une première phase, sûrement, des complétements de la diagnostic qui a été faite par les laboratoires de Sud-RMF et donc des mises en pratique en rapport avec la matière de cette diagnostic-là.
Vous, vous intervenez une fois que le diagnostic est fait, mais vous suivez, j'imagine,
mais d'abord, on étudie la diagnostic qui a été faite. Voilà, déjà pour faire la proposition. Et puis après, quand on a le tableau en vrai et quand on commence l'intervention, on met en rapport tout ce qu'on a étudié avec la matière qu'on voit et qu'on approche vraiment le corps du problème technique. Déjà, on a complété la diagnostic avec un relevé des altérations, c'est-à-dire une cartographie de tout ce qu'on voyait comme altérations structurelles, naturelles et accidentelles sous le tableau, pour avoir aussi une idée de ce qu'on allait trouver, qu'est-ce qu'on devait enlever, qu'est-ce qu'on devait laisser. Donc, il y a une première phase qui est sans doute des tours de réflexion avant de l'intervention physique. Et donc après, on commence pour la phase de nettoyage. Donc dans le cas de la Sainte-Anne, c'était un amincissement donc de vernis qui était souhaité et enlèvement des répins, effectivement, qui se sont révélés très débordants sur l'original. Donc on a récupéré beaucoup d'original.
Beaucoup. C'est une intervention qui obéit à un principe particulier, là, qui a été choisi, celui de la réversibilité.
La réversibilité, bien sûr.
Pour des raisons évidentes, j'imagine, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles précautions nécessaires ça nécessitait?
C'est une précaution, la réversibilité, c'est vraiment une intention qu'on a, une attitude, je dirais, une approche de la restauration moderne. On a sur toutes les œuvres, en fait. C'est pas la Sainte-Anne en particulier, c'est vraiment le principe des bases.
Donc, en fait, on ne retrouve pas un tableau tel qu'il a été peint à l'origine?
Non, mais au fait, la réversibilité, ça suppose qu'on prend conscience déjà que l'œuvre d'art, c'est un objet périssable. Donc, il y a une durée de vie bien plus longue que la nôtre. Donc, on a l'impression que ce soit une œuvre éternelle qui va toujours exister. Ce n'est pas le cas. C'est une œuvre qui il a une durée de vie, effectivement, et que s'abîme et vieillit comme toutes les choses. La restauration, c'est une intervention ponctuelle, donc à un moment de sa vie, qui la soigne, c'est-à-dire lui rallonge la vie, il la présente esthétiquement, de façon qu'on puisse la regarder de la meilleure façon possible, et de la restauration, il a tâche de la conserver, mettre en valeur l'original. De ces faits, la restauration, on sait qu'il doit absolument être différent comme matériau de l'original pour pouvoir faire la distinction entre l'original et notre intervention. Car en aucun cas, il faut que les deux soient au même niveau et puissent être confuses l'une avec l'autre. Et nous savons que la restauration a une durée de vie beaucoup moins longue que l'œuvre elle-même. Donc, il faut qu'à un moment donné, elle soit retirée. Il y a une espèce de manutention qui va être faite sur la vie de l'œuvre. Et donc, de ces faits, il faut qu'elle soit réversible pour pouvoir l'enlever à tout moment sans dommage pour l'original.
De façon à ce qu'on puisse intervenir ultérieurement.
Exactement.
Etc. On est dans une logique de développement durable,
tout à fait,
mais
tout à fait.
Appliquée au domaine des arts.
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous avez appris de la démarche artistique et scientifique de Léonard en étant aussi près du tableau?
Alors là aussi, on n'est pas exhaustif. C'est un artiste qui est très complexe, avec une personnalité très très riche. Ça, nous le savons tous. Donc là, c'est qu'il y a une œuvre de son parcours. Effectivement, c'est une œuvre de la maturité, donc on peut y retrouver des choses qu'il a déjà mis en place, et puis d'autres qui on retrouve pas sous les autres œuvres. Disons que quand je décris la technique de la mise en œuvre de sa peinture, je parle de cette œuvre-là et je ne serai pas la généraliser parce que d'autres collègues, par exemple Larry Kate de la National Gallery, il a trouvé une autre modus operandi de mise en place, par exemple sous le dessin. Donc là-dessus, vous voyez, c'est déjà différent d'un bleu à l'autre, donc je ne serai pas la généraliser. C'est sûr que je pense qu'on peut dire que c'est un artiste qui essaye de mettre en pratique, c'est ce qu'il étudie dans la nature, dans sa peinture, qui on a l'impression qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il fait et qu'il recherche toujours déplier sa matière à un idéal esthétique qu'il a dans la tête, qu'il n'arrive jamais vraiment à être satisfait de sa reproduction matérielle.
Au niveau des couleurs, de la palette, la campagne de restauration a apporté une nouvelle lisibilité de l'œuvre, une nouvelle profondeur.
Sûrement, on connaît mieux le couleur qu'il employait qu'avant le nettoyage, parce qu'on avait l'impression, effectivement, c'était une peinture sombre, alors que c'est une peinture très fraîche, comme tous les peintres de la Renaissance, d'ailleurs.
Ce sont les vernis qui ont, justement, terni les couleurs ?
On ne voit plus les couleurs, parce que les vernis, ça assombrit, ça jaunit, ça assombrit, ça s'oxyde, ça blanchit. Donc, on enlève pas seulement la couleur, mais aussi toutes les profondeurs du champ qu'il a mis en place. La seule altération qu'on a du pigment, c'est sous l'arbre qu'il y a, donc ce n'est plus un vert, c'est un marron. Ça, c'est une altération naturelle d'un pigment à base des cuivres qu'on connaît bien, cette altération. Donc l'arbre, il est marron, alors qu'au départ, il était d'un vert très vif, comme on voit sous les verts des Renaissances, comme les verts Bellini. Vous voyez, c'est des laques vertes très brillants qui y vont très bien en harmonie colorée avec les autres
avec
pigments.
Les autres couleurs, en fait. Votre intervention sur les couleurs, sur les pigments, c'est plus difficile que d'extraire les vernis? C'est quoi l'opération la plus délicate de votre intervention?
La plus délicate est sûrement le nettoyage, parce que c'est une opération, c'est un geste qui est irréversible. Donc, une fois que vous ôtez quelque chose, vous ne pouvez pas le remettre, donc c'est à jamais. Donc, c'est sûrement l'opération la plus délicate. Alors, pour la réintégration esthétique, il y a un équilibre à trouver dans la minimisation des altérations esthétiquement. Et sûrement, il y a une rigueur à observer, c'est-à-dire qu'il faut être légère, pas déborder, être précis. Mais nous sommes dans un domaine où on peut enlever, remettre, vous voyez. Donc le nettoyage, c'est vraiment une opération définitive.
Le tableau est-il en bon état? L'avez-vous trouvé d'abord en bon état suite à ces nettoyages? Et pour quelle durée de vie repart-il, disons, avant la prochaine campagne de grande envergure?
Il est en très bon état pour une peinture de cette époque. C'est un peintre qui utilise beaucoup de liant dans sa peinture. C'est ce qui donne une solidité à sa couche picturale. Et c'est un tableau qui a été bien conservé, car il a toujours été quand même dans les collections royales et puis au Louvre. Donc, en dépit des campagnes de restauration qui se sont accumulées, altérées, il y a très peu de gâteaux sur sa surface comparé à d'autres tableaux que nous avons de la même époque. Les bois aussi, il est très bien conservé, il est encore sous son support d'origine. L'assemblage des quatre planches est extraordinaire, parce que l'assemblage qui a mis en place sont menuisés, c'est pas ouvert, hein, donc les planches ils sont aussi en très bon état, les bois. Donc je pense qu'on peut dire qu'il est en très bon état. Pour ce qui concerne mon intervention, la durée de vie d'intervention, ça dépend aussi dans les conditions de conservation, bien sûr. Mais on peut espérer une durée de vie entre 50 et 100 ans, on va dire.
Et chaque année, de toute façon, il y a un suivi d'assuré du tableau par le laboratoire
Je pense que c'est prévu, comme pour la Joconde, de faire un monitoring un peu attentif de son évolution.
C'est vous qui viendrez faire ce suivi?
Je l'espère, ça serait intéressant pour moi. J'espère qu'ils vont me rappeler les forçages, je l'espère. Mais ce n'est pas nécessaire non plus. Je pense que le restaurateur, n'importe lequel, il est tout à fait capable de regarder le dossier, c'est ce qui a été fait, puis de suivre l'œuvre.
Sur ce tableau, juste une dernière question. Vous êtes intervenu de façon extrêmement minutieuse, avec des outils adéquats, mais y a-t-il un détail que vous avez redécouvert dans ce tableau qui vous aurait particulièrement ému?
Il y en a beaucoup. C'est vrai que c'est un tableau, comme Pierre Curie disait tout à l'heure, de l'égal, on ne se lasse pas. Et aussi parce qu'on a eu tous les jours des découvertes extraordinaires. On a trouvé ses empreintes digitales, ses merveilleuses couleurs. Et puis sa technique, c'est vraiment extrêmement intéressante, des près comme des loin. Et donc la nettoyer, la découvrir jour après jour, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous.
Où sont situées les empreintes digitales de Léonard?
Il y en a dans plusieurs endroits. Il y en a beaucoup sous le bord gauche et le bord supérieur horizontal. Il y en a beaucoup sous le manteau bleu, sous les cheveux de la Vierge et dans l'arbre.
Et comment sait-on que ce sont les empreintes de Léonard de Vinci?
C'est des
Parce
empreintes.
Il y en a plusieurs
sur les tableaux. Oui, il y en a sur plusieurs de ses œuvres. Je pense qu'il y en a sur toutes ses œuvres. Ça serait intéressant, effectivement, d'aller comparer, mais ça, c'est encore.
Ça fait partie de la campagne scientifique, de toute la documentation accumulée.
Ça serait souhaitable, effectivement, que les empreintes rélevées sur toutes les œuvres soient mises en comparaison pour faire un casistique. Ça serait en tout cas quelque chose à faire.
Je vous remercie beaucoup, Cynthia Pasquali.
Au revoir.